Donc, bonsoir. C'est le cours numéro 7. On arrive, mais on n'arrive pas au bout. Je suis désolé. J'ai vu trop gros, quoi. Donc, il va falloir vous revenir l'année prochaine, quoi. C'est bête, hein. Je repars. Ce sur quoi j'avais terminé la semaine dernière, en fait, avec cette introduction de Geschwind, en fait, qui est un des grands monsieur de l'évolution de la génomique et de la cognition, et qui donc, je vous le disais déjà la semaine dernière, résume assez bien ce sur quoi nous sommes engagés cette année et ce sur quoi nous allons continuer de nous engager l'année prochaine, donc. Et qui est donc l'idée que les perspectives évolutives et développementales peuvent nous donner une idée de qu'est-ce qui d'abord a permis la construction de cette chose là-haut, là, un peu monstrueuse, il faut bien le dire, hein, qui est monstrueuse, oui, à vrai dire, et en même temps, comment cette chose est porteuse de maladies. Donc moi, je pense, mais bon, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, qu'elles ont une forme spécifique, en tout cas, sinon, si elles sont spécifiques de Sapiens, en tout cas, des formes spécifiques chez Sapiens. En particulier, les maladies neurologiques et psychiatriques, comme on en a souvent parlé. Et j'avais terminé, donc, sur ce diapositive que je n'avais pas eu le temps de vous décrire complètement. Je vous rappelais que quand on compare deux gènes entre... c'est un peu comme des manuscrits, hein. Même problématique. Quand vous regardez, comparez deux gènes entre deux espèces, pour savoir qui a évolué, il faut avoir toujours un groupe externe. En l'occurrence, l'orang outan sert souvent de groupe externe quand on compare les génomes des chimpanzés et ceux des sapiens. Et là, ce que vous voyez aussi, c'est que vous avez toute une série de modèles animaux. On ne peut pas travailler sur sapiens, très peu, et chez le chimpanzé, encore moins, je dirais. Pourtant vrai. Vous avez plein de modèles animaux qui sont imparfaits, mais qui chacun peut apporter un petit quelque chose. Voyons, Sapiens ne peut rien apporter, c'est connu. Mais la mouche, évidemment, c'est la génétique. Le rat, c'est essentiellement le comportement. C'est un animal qui est assez riche sur le plan comportemental, plus riche que la souris, ce qui est un peu dommage, parce qu'évidemment, c'est plutôt la souris qu'on utilise pour les études génétiques chez les mammifères. Non pas qu'on ne pourrait pas faire des rats transgéniques, mais les gens ont du mal à caser les souris. S'il faut caser les rats, ouais, c'est au cube. Hein. Donc, vous imaginez, il faudrait transformer le Collège de France en animalerie. Bon, ce n'est pas que ça n'en soit pas une, d'une certaine façon, mais nous ne sommes pas des animaux comme les autres. Voilà, donc je le dis souvent. Le ver est intéressant pour la génétique aussi. C'est un animal qui a énormément été utilisé pour étudier le vieillissement. On dit la longévité, c'est mieux, parce qu'on peut créer, on peut se créer des mutants qui vivent longtemps et donc de trouver des gènes qui sont impliqués dans une vie trop longue. C'est aussi un animal qui a été extrêmement utilisé pour trouver des gènes qui sont impliqués dans la mort cellulaire. En fait, c'est à partir de Cénorhabditis, un petit ver de 1050 cellules, 300 et quelques neurones, les premiers gènes impliqués dans la mort, dans l'apoptose, hein, dans la mort cellulaire programmée, ont été identifiés. Les chimpanzés, on n'y revient pas, c'est notre cousin presque germain. Le poisson zèbre est probablement un des modèles qui monte aujourd'hui, depuis un certain temps, d'ailleurs. On peut faire du comportement, on peut travailler sur le rêve du poisson zèbre. On peut aussi faire maintenant de la génétique et du screening chez le poisson. Donc, c'est un modèle qui est assez sympathique, bien que son cortex soit un cortex de poisson. Et si vous avez suivi les cours je ne sais pas si c'est l'année dernière ou cette année, j'arrive plus à savoir, le cortex du poisson est très différent de notre cortex, complètement différent. Bon, le macaque, bon, il sert... Tous les physiologistes mettent des électrodes dans le cerveau du macaque. L'orang-outan, c'est le groupe externe essentiel pour toutes les études de génétique. Et puis, bon, il y a toute une bande de bestioles. D'ailleurs, l'année dernière, on a beaucoup parlé du zebra finch, hein, qui est le pinson, à cause des problèmes de vocalisation. Et on a pas mal parlé cette année, vous rappelez, du furet, qui est un mammifère gyrocéphale, c'est-à-dire qui fait des circonvolutions. Donc, ce sont des multiples animaux. Et évidemment, toutes les manips qu'on fait à partir de ces animaux, à la fin, il faut leur donner un sens, et ce n'est pas toujours évident, parce que on est limité quand même par chaque modèle. D'où des approches qui sont des approches extrêmement complexes. Ou si vous partez d'une comparaison entre deux génomes, chimpanzés et humains, et vous avez des mutations qu'on va appeler non synonymes, hein, vous rappelez, c'est-à-dire pas transformer une leucine en isoleucine, mais un aspartate en lysine, par exemple, ou un tryptophane en quelque chose d'un acide aminé non de type pas hydrophobe, hydrophile. Et puis vous avez des mutations qui sont des mutations synonymes, hein, oui, justement, leucine, isoleucine, aspartate, glutamate, etc. Et donc, vous pouvez faire un rapport entre les mutations non synonymes et synonymes, et si ce rapport est supérieur à 1, on suppose en général qu'il y a une évolution accélérée, ce qui est vrai très souvent, ce qui n'est pas toujours vrai. Des fois, ça veut simplement dire que le gène ne sert à rien, et donc on peut accepter plein de mutations. Il y a un relâchement de la pression évolutive. Mais une fois que vous avez identifié ces gènes, bien entendu, il faut ensuite passer, regarder si c'est corrélé avec des différences de comportement, ce qui se passe en imagerie moléculaire, chercher des biomarqueurs, vous allez voir, étudier évidemment l'épigénétique du système et essayer de voir s'il y a un rapport avec un certain nombre de pathologies. Donc ça devient des gènes qui sont des gènes candidats. Hein, et comme vous savez, on a des dizaines, voire des centaines de gènes candidats. Donc, à vrai dire, on ne sait pas toujours très bien quoi faire. Ils sont vraiment des bons ou des mauvais candidats. Là, vous voyez, de nouveau, le macaque là, nous sert de groupe externe, extérieur, hein, et qui permet de dire que la différence entre l'homme et le chimpanzé est vraiment le résultat d'une évolution accélérée chez le chimpanzé. Parce qu'on ne voit pas la même... Vous voyez, le macaque, là, vous voyez, le chimpanzé, vous voyez, vous avez très très proche du macaque, alors que là, vous avez une mutation qui est spécifique de l'homme. Donc c'est arrivé après la bifurcation. Mais une fois que vous avez ça, bien entendu, vous devez rentrer dans la boucle et aller regarder un tout petit peu comment les alentours du gène ou le gène lui-même peut être méthylé, ce qui va modifier évidemment son expression, ou regarder les polymorphismes de ce gène. Vous savez que le polymorphisme est une des voies d'entrée dans l'analyse des maladies, c'est-à-dire ce qu'on appelle les SNPs, par exemple. Regardez un tout petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis, comment ça peut être régulé au niveau transcriptionnel, ce qui veut dire les petits ARN, on va y voir, on va y revenir plutôt. Regarder les modifications entre les régions du système nerveux, hein, qui ne sont pas forcément, ce n'est pas la même expression forcément, ce n'est même pas les mêmes ARN qui sont exprimés à cause des phénomènes d'épissage alternatifs qui font que différentes régions vont faire différentes formes de protéines ou vont avoir différents types de messagers. Et puis les protéines, bien sûr, la phosphorylation de ces protéines. Et ensuite, eh bien, au-delà de la différenciation régionale, la différenciation cellulaire, est-ce qu'il y a ces gènes sont créés plutôt dans les astrocytes, dans les neurones, dans les macrophages, dans les vaisseaux sanguins, enfin dans toutes ces choses qui sont l'essentiel du système nerveux. Et évidemment, après, eh bien, faire le modèle animal en choisissant le bon animal, hein, ce qui n'est pas toujours évident, pour aller tester l'hypothèse que ces mutations ont quelque chose à voir avec une modification du comportement, et enfin revenir au cerveau humain pour aller post-mortem peut-être regarder un petit peu dans quelle mesure ces mutations avaient quelque chose à voir avec une pathologie. Donc c'est un processus assez compliqué qui parfois aboutit à des hypothèses pas toujours, évidemment, à des certitudes. C'est assez rare qu'il y ait des certitudes dans le domaine. Donc, de nouveau, je perds un petit peu mes trucs. Vous êtes habitué maintenant. Ça vous fait plus peur. Moi, ça me fait toujours peur, mais vous ça a l'air de... Vous êtes gentil. Donc, on va regarder ça un tout petit peu plus tard. Donc, je ne pense pas qu'on puisse ignorer complètement, une fois qu'on a regardé tous ces niveaux dont je vous parlais tout à l'heure, on va rester là pour l'instant, on ne peut pas ignorer le développement lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au cours du développement, du fait de la valeur adaptative du développement. Ça, c'est ce qui se passe, par exemple, au cours des périodes critiques, période critique de développement dans laquelle le cerveau s'adapte à l'environnement ou ne s'adapte pas à l'environnement, ce qui n'est pas sans conséquence sur la façon dont le cerveau va pouvoir fonctionner chez l'adulte, bien entendu. Et je ne parlerai probablement pas des périodes critiques cette année. Je crois que malheureusement, je serai obligé d'en parler l'année prochaine, parce que les deux prochains cours, peut-être la dernière cours peut-être, mais je pense que le prochain cours sera essentiellement consacré au problème de l'évolution du métabolisme et des modifications métaboliques qu'on peut rencontrer chez les schizophrènes en particulier. Pour des raisons tout à fait évidentes, c'est que, comme je vous le dis, comme je vais encore vous le répéter aujourd'hui, je suis assez convaincu maintenant, après toute cette biblio que j'ai faite, c'est une cible tout à fait intéressante pour comprendre ces maladies neurologiques ou psychiatriques. Donc, je l'ai souligné souvent, même très souvent, il est impossible de comprendre, même absolument, c'est plus que difficile, je pense qu'il est impossible de comprendre comment un si petit nombre de gènes, nous n'avons que 20 000 gènes, peut rendre compte de la complexité de l'espèce qui est la nôtre, et surtout de la complexité de nos comportements sociaux. Donc si vous partez du cerveau qui est un cerveau archétype de mammifère, bon, c'est clair qu'il y a énormément de modifications qui se sont introduites, et j'en ai discuté certaines. Rappelez-vous, la taille du cerveau, enfin, les bords qui changent, etc. C'est-à-dire que, ce que j'essaie de vous montrer, c'est à quel point le cerveau humain était à la fois sur le même archétype, sur le même modèle, mais était extraordinairement différent du cerveau des autres espèces. Même si c'est le même plan, on n'a pas construit la maison de la même façon. C'est un peu comme les tétrapodes. Si vous regardez un chien, bon, il a deux membres avant, deux membres arrière, comme vous et moi, mais ce n'est pas tout à fait le même animal. Donc, ces modifications ont été introduites, on a discuté, et ce qu'on peut penser, évidemment, c'est que le niveau d'expression des gènes, l'étude du niveau d'expression des gènes, pourrait être une approche efficace pour essayer de comprendre cette nouvelle complexité des comportements sociaux chez nous. Vous avez vu que je ne suis pas entièrement d'accord avec ça. Ça a été fait quand même la semaine dernière, vous avez vu ça. Ça a été fait quand même dans plusieurs... C'est pas grave. Dans plusieurs études, et, on a trouvé des facteurs de transcription qui sont beaucoup plus fortement exprimés chez nous. Par exemple, une protéine à doigt de zinc, qui est un facteur de transcription qui s'appelle Crab Zinc Finger. L'autre façon de faire, c'est de regarder la différence d'expression des gènes au cours du vieillissement du cerveau humain, dans le contexte, évidemment, de la longévité exceptionnelle de notre espèce. On peut dire que les gènes dont l'expression corrèle avec le vieillissement sont aussi ceux qui ont une moindre conservation évolutive. Et ça suggère qu'ils ont pu faire l'objet d'une sélection positive et avoir un rôle à jouer dans la préservation de la neurodégénérescence. Et donc, s'ils mutent, on peut imaginer que c'est une voie d'approche à la neurodégénérescence. C'est-à-dire la corrélation entre l'apparition de nouveaux gènes ou une expression très forte de certains gènes corrélés avec le vieillissement est peut-être une voie d'entrée. Donc il y a des chercheurs qui ont été cherchés dans ce sens-là, ils sont payés pour ça. Je ne vais pas développer ça parce que j'aimerais arriver quand même avant la fin du cours à ces histoires de métabolisme qui fera un bon point d'arrêt et un bon point de redépart l'année prochaine. Il y a aussi un autre point qui est très important, c'est que les cellules, ce n'est pas des sacs, ce ne sont pas des sacs dans lesquels les molécules s'agitent de façon stochastique. La question des localisations subcellulaires est une question extraordinairement importante dans la physiologie cellulaire. Et par exemple, il y a une glutamate déhydrogénase GLUT2, qui ne trouve que chez les hominidés, hein, qu'on ne trouve pas dans les autres embranchements, et qui se localise spécifiquement à la mitochondrie chez nous, en comparaison avec une forme ancestrale qui s'appelle GLUD1, c'est GLUD1, qui est une glutamate dihydrogénase qui recycle le glutamate en alpha-cétoglutarate. Donc, cette localisation est importante. Il y a tous les gènes de localisation qui, évidemment, de ce point de vue, sont importants. Toutes les petites protéines G, les RAB, le transport. Vous allez voir que le transport est un truc qui n'est pas sans intérêt par rapport aux questions qui nous préoccupent. En fait, en plus, si les expressions différentielles jouent un rôle, elles en jouent un peut-être. Vous avez vu la dernière fois que je vous avais dit que la connectivité des gènes était plus importante que l'expression différentielle. Ça ne veut pas dire que l'expression différentielle ne joue pas un rôle, hein. Mais si elle joue un rôle, encore faut-il tenir compte des épissages différentiels, hein, et des enzymes qui font le travail, c'est-à-dire les enzymes qui épissent, et dont certaines sont spécifiquement neuronales. C'est-à-dire qu'on a des enzymes d'épissage qui sont uniquement dans les neurones et qui font des formes épicées neuronales. Il y en a une qui s'appelle MAGO, M-A-G-O-H, qui est impliquée dans l'épissage au niveau du cerveau. Et quand MAGO est muté, vous avez des microcéphalies, vous avez des sapiens qui développent un petit cerveau. D'accord ? Il y a un autre exemple qui est intéressant au niveau de l'épissage, c'est la leprine, qui a un pattern spécifiquement humain d'épissage et qui joue un rôle très important dans le domaine présynaptique et l'organisation des synapses glutamatergiques de type AMPA, c'est-à-dire qui c'est un type de récepteur glutamatergique, et qui est très très important dans l'organisation de la synapse dans son ensemble et l'ancrage de ce récepteur glutamatergique à la synapse. Donc ça, si vous perdez la leprine, eh bien, vous avez un problème avec votre transmission synaptique de type glutamatergique. Donc, vous voyez que dès qu'on rentre un tout petit peu dans le détail, il y a le nombre d'endroits où ça peut dérailler, évidemment, augmente. Alors, ces analyses sont intéressantes, elles sont importantes, mais moi, elle me laisse un petit peu sur ma faim. Je pense que je dois vous laisser aussi sur votre faim. Bon, d'abord, comme je le disais, la sélection positive, telle qu'on peut la voir ici, est parfois très difficile de séparer d'une sélection neutre. Hein. Et il est surtout très difficile, en tout cas, c'est ce qui me semble, après la lecture de ces papiers, de comprendre parmi ces changements d'expression lesquels ont une valeur fonctionnelle. Hein. C'est-à-dire que... C'est un problème qui est un problème majeur, je dirais, dans l'étude de la physiologie, du développement, de ce que c'est qu'il est extrêmement difficile, dans les expériences qu'on peut faire dans un laboratoire, d'introduire une modification contrôlée de l'expression d'un gène. C'est-à-dire que la plupart des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on retire le gène carrément, hein. Bon, on peut le faire dans un certain endroit, à un certain moment, avec des lésions induites, mais avec des promoteurs spécifiques, avec des moments où on va activer une enzyme pour aller exciser le gène, tout ce que vous voulez. Mais on peut faire en général, soit on perd le gène, soit alors on le surexprime dans des concentrations telles qu'on n'est jamais dans une situation physiologique. Donc, vous pouvez faire des différences d'expression, effectivement, mais si vous avez 1000 fois plus du gène ou zéro, c'est-à-dire une quantité infiniment moindre, c'est très brutal, hein, c'est extrêmement brutal. Et ça n'a rien à voir avec... ça ne permet pas, enfin, c'est mon point de vue, en tout cas, une compréhension extrêmement fine de la signification physiologique d'un changement d'expression de ces gènes, et encore moins signification sur le plan évolutif des changements d'expression de ces gènes. Donc là, c'est un outil, c'est vrai, c'est un outil qui nous manque, hein, dans nos modèles expérimentaux, c'est-à-dire de varier un gène de facteur 10%. Hein, et c'est ça qui compte. Hein, donc, c'est pourquoi moi je trouve que l'analyse des réseaux de gènes, celle que je vous ai présentée la semaine dernière, vous vous rappelez, on comparait les réseaux de gènes chez un chimpanzé et chez un sapiens, enfin, trois chimpanzés, trois sapiens, il y avait 18 chimpanzés et 18 sapiens, donc c'était une manip qui était quand même assez puissante, où on avait identifié ces massifs, vous vous rappelez, ce massif transmission synaptique, morphologie neuronale, puis un massif métabolique avec des gènes hub, hein, des hub genes, et à la place de, à partir de microarrays, on avait montré que la connectivité permettait de faire apparaître ces massifs régulés différemment entre nous et les chimpanzés. C'est pour ça que je pense que ça, c'était une analyse plus prometteuse, hein, parce qu'elle associe la différence d'expression, c'est vrai, aussi la différence de connectivité, hein, comme vous rappelez. Et ça, je crois que c'est une bonne définition de la physiologie. Donc, si on cherche les points de convergence de la plupart de ces études d'expression, c'est sûr qu'un des points particulièrement intéressants, j'y reviens toujours, mais je crois que c'est... Pour moi, c'est un peu une découverte, hein, d'une certaine façon. Donc, bon, c'est l'ensemble des cours me servent quand même à quelque chose. L'ensemble des gènes du métabolisme énergétique. Et c'est vraiment de ce côté-là qu'il y a une très forte différence entre les humains et les autres primates. Donc, il est important, je crois, de constater que certains de ces réseaux métaboliques, en particulier ceux qui sont associés à la mitochondrie, sont en rapport avec le vieillissement cérébral et beaucoup de maladies neurogénératives. Donc, je vous l'ai dit au début du cours, je vous le répète, la demande énergétique imposée par ce cortex monstrueux qui est le nôtre est à mon avis, une des clés pour la compréhension de nombre de maladies spécifiquement humaines. Et c'est pour ça que je pense que ces maladies sont spécifiquement humaines, parce que notre cerveau, personne n'a un truc pareil à l'avant de son corps. Ça n'existe pas. Nous devrions avoir un cerveau, je dis souvent, de 500 cm3 si nous étions des singes comme les autres. Nous avons ces 900 cm3 de trop. Et je crois que tout le malheur vient de ces 900 cm3 de trop. Ben oui. On peut dire qu'on serait plus heureux sans les 900 cm3. Bon, ce serait moins tragique, donc moins intéressant, mais... ouais, enfin bon, il y a des jours, il y a surtout des nuits, comme vous savez, on peut se poser la question. Donc, j'ai plusieurs fois mentionné que beaucoup d'études, y compris certaines que j'ai présentées ici, devrait être un jour corrigé du fait des nouvelles techniques de séquençage qui permettent maintenant de séquencer tous les ARN prélevés dans un tissu, dans un groupe de cellules, voire dans une cellule. C'est-à-dire que ce n'est plus maintenant les techniques par microarray, comme on dit, où on prend les messagers, on fait des cDNA et on les balance sur des petites chips où il y a un petit morceau d'ADN complémentaire pour voir quels sont les gènes qui sont exprimés et différencier entre deux tissus. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est séquencer l'ARN complet, donc avoir pour chaque tissu l'idée de quel gène est exprimé et à quelle concentration. Donc ça, et quelle forme, épicée ou pas, etc. Donc ça donne des informations tout à fait importantes. Donc en 2010, ça fait 2 ou 3 ans qu'on commence à avoir accès de façon courante au séquençage total de l'ARN. Quand je dis 2 ou 3 ans, c'est un peu optimiste, c'est plutôt 1 ou 2 ans. Donc, en 2010, il y a 2 études de séquençage d'ARN qui ont été menées chez les chimpanzés et chez nous, hein, plus le macaque, bien sûr, on ne peut pas se débarrasser du macaque, comme si l'orang-outan, c'est toujours le groupe externe, qui démontre l'existence d'ARN non codant spécifique du lignage humain. D'accord ? Donc, j'ai une première de ces études qui a été faite par un type qui s'appelle Babbitt et ses collègues. Les auteurs se sont penchés sur l'expression de transcrits dans le cortex frontal de 3 humains, de 3 chimpanzés et de 3 macaques. Et on ne trouve pas une expression en général, et ça de nouveau, vous voyez, c'est ce problème de l'expression différentielle, on ne trouve pas une expression forcément plus grande chez nous, hein, ni un plus grand nombre de gènes exprimés. Mais en revanche, certaines catégories de gènes semblent plus fortement exprimées. Il y a certains qui semblent plus fortement exprimés et qui apparaissent qui appartiennent aux catégories que je me suis permis de surligner ici et qui sont intéressantes. Vous voyez que vous avez bien entendu toujours les transports de soluté et en jaune, là, ce qui a à voir avec. J'ai du mal à distinguer le jaune du vert, mais en jaune, c'est plutôt ce qui a à voir avec le. Alors il y a 2 façons de regarder. Il y a Gene Ontology, il y a Panthère, ce sont 2 programmes différents. Qui sont accessibles aux chercheurs. Donc, en général, c'est assez redondant ce qu'on peut trouver dans les 2 programmes. Mais vous voyez que vous avez donc ce qui a à voir avec le métabolisme énergétique. Mais vous avez des catégories qui sont intéressantes. Par exemple, les catégories de transport intercellulaire. Quand je disais que la localisation intracellulaire des objets biologiques est importante, évidemment, ça, c'est important parce que ça veut dire que vous pouvez avoir des différences au niveau des molécules d'adressage, hein, les postiers, si vous voulez, ceux qui vont mettre la protéine ou le messager ou le micro-ARN au bon endroit. Et puis, vous avez aussi quelque chose qui est assez intéressant qui apparaît, c'est les problèmes de réparation et de métabolisme de l'ADN. Et ça, ça ne devrait pas vous étonner parce que c'est bien de le retrouver dans les études génétiques. Mais ce n'est pas extraordinairement étonnant dans la mesure où, avec le vieillissement, eh bien, l'ADN en prend un coup, quoi. Ça casse. Et ça se répare. Mais pas toujours comme il faut. Ça, c'est moins bien. Voilà. Donc, c'est la vie. Hein. On dirait Kurt Vonnegut. Donc là, c'est... Alors, vous avez aussi la question des lipides. Hein. On voit apparaître en bleu, là, en bas, là, une catégorie de type lipidique. Et ça, c'est... Bon, ça peut être cérébral. Hein. Ça peut aussi être lié, probablement lié à des problèmes de changement de régime alimentaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas le même régime alimentaire que nos lointains cousins. Voilà. Donc, de plus en plus lointains, en ce qui me concerne, je ne sais pas si j'ai remarqué, mais finalement, je ne suis pas sûr qu'on soit des singes. Voilà. Donc, une deuxième étude de séquençage d'ARN liée qui a été faite par M. Xu et collègues, je n'ai pas de diapositive pour ça, elle mérite de citer, en dépit du fait qu'elle se concentre sur une région qui est une région moins noble que le cortex, qui est ce qu'on appelle le cervelet, le truc là qui est derrière. Et ces chercheurs ont également fait du RNA sequencing sur les transcrits, mais sur les transcrits sans poly-A. Vous savez que les ARN messagers, la plupart des ARN messagers que nous avons, ont une queue poly-A. A, c'est un nucléotide, hein, polyadénosine. Mais il y a pas mal de messagers qui n'ont pas de poly-A, en particulier les ARN ribosomaux n'ont pas de poly-A, mais éliminons les ARN ribosomaux. Mais il y a des ARN comme les micro-ARN, comme les ARN qui sont entre les gènes, etc., des antisens, les gènes mitochondriaux, les ARN mitochondriaux, encodés par les mitochondries, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns, ça fait 2% de ces gènes, eh bien, qui n'ont pas de... Donc toutes ces catégories ARN, je retire l'ARN ribosomal, mais toutes ces catégories mitochondries, jonctions, exons, certains exons qui ne sont pas polyadénylés, ça fait à peu près un tiers de ce qu'on appelle le transcriptome. Et le reste se distribue, et c'est ça qui est intéressant, entre les introns, c'est-à-dire les régions qu'on fait... Vous savez, un gène est fait d'exons et d'introns, et l'épissage, ça veut dire retirer les introns pour rejoindre les exons, mais ce petit morceau qui reste, là, qui ne code pas pour de la protéine, mais qui est quand même dans le gène, ça s'appelle un intron, donc 49% de ce qu'on voit, c'est de l'intron, donc il y a beaucoup d'introns qui sont transcrits hein, et qui restent là, et puis pour 26% des régions intergéniques, vous vous rappelez, la semaine dernière, je crois que j'avais montré des introns et des régions intergéniques la semaine dernière, donc je n'ai pas voulu remettre la diapositive. Donc, je n'ai pas pensé, enfin, j'aurais dû la remettre, mais pas grave. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces régions sont quand même sont transcrites. Quoi. Et donc, parmi les séquences intergéniques et introniques, donc celles qui nous intéressent le plus, là, on voit que la moitié provient de ce qu'on appelle des séquences répétées, qui occupent chez nous 42% de notre génome. Donc, alors ce que disent les auteurs, qui est intéressant, c'est que cette expression est proportionnelle à la fraction du génome occupé. Donc, ils disent que ça pourrait être du bruit transcriptionnel. Je n'aime pas beaucoup ça. Je pense que c'est des façons de ne pas faire face au truc. C'est peut-être du bruit, mais peut-être que ça n'en est pas. Hein. C'est difficile d'imaginer qu'on fait des molécules qui ne servent à rien. Et quand on regarde certains de ces transcrits répétés de basse complexité, c'est-à-dire pas trop répétés, avec quelques exemplaires de ces transcrits, eh bien, on se rend compte que leur expression est plus forte. Donc, peut-être que là, c'est plus du bruit du tout, parce que ça a probablement du sens d'avoir ces transcrits. Donc, comme vous le savez, plus de 90% des séquences répétées chez Sapiens proviennent de l'activité d'éléments transposables, on en a souvent parlé. J'y reviendrai beaucoup l'année prochaine, je pense. J'espérais pouvoir traiter ça cette année, mais je crois que j'aurai pas le temps. Enfin, je suis sûr que j'aurai pas le temps. Et ça s'est amplifié pendant plusieurs centaines de millions d'années. Donc, ça n'a pas commencé avec nous, hein, cette histoire de transposition. Et donc, quand on regarde l'activité transcriptionnelle actuelle des différentes familles d'éléments transposables, on constate que les séquences les plus fréquentes, qu'on appelle les séquences ALU, sont les plus transcrites. Donc, c'est un effet très marqué. Et c'est un effet encore plus marqué si on se réfère au seul transcriptome du cerveau. Donc, c'est un phénomène qu'on retrouve chez les deux autres espèces, hein, pas uniquement chez nous, on le retrouve aussi chez le chimpanzé, chez le macaque. Donc maintenant, si j'exclus ces séquences répétées, quand même c'est très encombrant, ces séquences répétées, les régions intergéniques, c'est-à-dire entre deux gènes qui sont disposés, une grande région qui ne sert à rien, elle sert, mais on pensait qu'elle ne servait à rien, on se rend compte que vous avez là 7% de l'ARN humain de nature non ribosomale. Si vous retirez les ribosomes, il vous reste 7% de l'ARN humain qui est en fait de l'ARN intergénique. Et ces régions ne sont pas distribuées au hasard. C'est ça qui est intéressant. Leur expression est du même niveau que celle des gènes qui sont à proximité. Hein. C'est pour ça qu'on les appelle régions intergéniques hautement transcrites. Donc, il y en a un millier environ. Donc, il y a un millier de ces régions qui sont intergéniques, mais assez proches du gène. Donc, vous voyez, vous avez Paris, Marseille. C'est entre Paris et Marseille. Ça peut être assez près de Paris, assez près de Marseille, même s'il y a zéro ville entre les deux. Dites pas ça aux Lyonnais. Voilà. Donc, ces régions sont un millier. Elles ont des tailles distribuées. Il y a deux pics, mais une taille intéressante, c'est 500 nucléotides. Et ce qui correspond à la taille moyenne d'un exon. Et en fait, elles sont groupées et elles sont séparées par d'autres petites régions donc qui seraient comme des introns d'ARN non codant. C'est comme s'il y avait des gènes ARN qui seraient distribués entre des gènes protéines, si vous voyez ce que je veux dire, ce qui est assez amusant comme concept. Donc, ça ouvre l'hypothèse que les transcrits non codants auraient des structures aussi en exons introns, mais pour des ARN, pas pour des protéines. Donc, si on s'intéresse à la localisation de ces régions intergéniques hautement transcrites, donc on constate, je vous l'ai dit, qu'elles sont riches. Non, je ne l'ai pas dit. Si elles sont riches en gènes, puisqu'elles sont à moins de 10 kilobases, ce qui n'est rien du tout, hein, à moins de 10 kilobases d'un gène annoté, comme on veut dire, qui a été identifié. Et pour ce qui est de leur fonction, je ne sais pas si c'est ça, peut-être. Pour ce qui est de leur fonction, sur les 251 qui ont des gènes qui ont été. Pour les 251 gènes qui sont à proximité d'une région de type hautement transcrite, ça se passe en général du côté 3', ou alors ce sont des extensions des 3' UTR avec des sites de fixation pour les micro-ARN. Donc c'est possible que ce soit des choses qui permettent une meilleure régulation de la traduction des messagers, des gènes. Des messagers correspondant aux gènes qui sont à proximité. C'est-à-dire que ça introduit une possibilité importante de régulation de la traduction. Donc, la plupart de ces gènes sont impliqués dans des fonctions neurales, hein, transduction du signal, régulation de la plasticité synaptique, apprentissage, et aussi la régulation de la signalisation insulinique. Et donc, là encore, vous voyez, on a quelque chose à voir avec la nutrition et avec le métabolisme. Donc, je vais vous reprendre un autre article, c'est celui-là, qui est aussi un article que j'ai trouvé assez intéressant, sur la part respective des changements dans les régions codantes et non codantes dans l'évolution des primates, et chez nous tout particulièrement. Donc ça, c'est un papier de Haygood et collègues qui est sorti en 2010. Ils ont aussi utilisé les deux logiciels, hein, Panther et Go et Gene Ontology, plus les données d'expression qu'on peut trouver en particulier sur le site de Atlas Novartis. Donc, pour comparer les sélections positives, hein, c'est-à-dire, vous avez vu tout à l'heure, K sur KS supérieur à 1, dans les régions codantes et dans les régions non codantes. Donc, quand c'est des régions non codantes, ce n'est pas un acide aminé qui a changé, mais c'est un nucléotide. Donc, et dans les régions et la nature des gènes qui sont sélectionnés, en associant évidemment chaque région non codante avec le gène le plus proche. Hein. Et ça, on est obligé de faire ça parce que le génome non codant n'a pas été entièrement annoté, c'est-à-dire qu'il n'est pas entièrement connu. Ça reste encore une sorte de boîte noire dans notre génome. Hein. C'est un truc assez compliqué. Ça va venir, on va y arriver. Et c'est quand même 98% du génome, donc ça fait du monde. Donc, cette diapositive-là que je vous montre résume assez bien le résultat principal dont je voulais vous parler, c'est que, d'une part, les régions non-codantes au voisinage de gènes impliqués dans la neurogénèse, alors, vous voyez, ça, ce sont les régions non-codantes en rouge, hein. Vous voyez tout de suite que vous avez une très forte évolution de ces régions non-codantes, et surtout quand elles sont associées à des gènes, à proximité de gènes qui sont impliqués dans la neurogénèse. Combien je fais de neurones, je fais des glies, rappelez-vous, les zones subventriculaires externes, enfin out et inner, OSVZ, ISVZ. Donc ça, c'est intéressant. Aussi dans la construction des muscles, ça c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on peut aussi courir, sauver, quoi. Donc ça, c'est d'autres activités neuronales que la neurogénèse. Vous voyez que c'est quand même très très fort. Alors que les régions codantes, finalement, n'ont pas tellement évolué. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que au voisinage des régions codantes, bon, il se passe pas, dans les régions codantes, il ne se passe pas grand-chose. Mais les éléments régulateurs ont énormément augmenté, énormément muté. Dans le muscle, c'est pareil. Hein. Si vous regardez dans l'immunité, ce n'est pas pareil. Les deux ont changé à la même vitesse. Et vous avez des systèmes où c'est essentiellement des régulations ou des modifications des régions codantes, pour autant que je puisse voir clair avec cette histoire. Donc, quand je dis impliqué dans la neurogénèse, ça veut dire prolifération, migration, guidage axonal. Donc, voilà quoi. Donc, d'autre part, ce qui est intéressant quand on regarde les modifications dans les régions non codantes, c'est qu'elles sont corrélées plus avec les gènes qui sont exprimés dans le système nerveux. Vous voyez ? Donc, en fait, il y a quand même quelque chose de spécifique dans la régulation des régions, enfin, dans la modification des régions non codantes. Au niveau, à proximité de gènes qui sont impliqués dans la neurogénèse. Bon, vous direz, c'est normal, la neurogénèse, ça se fait plutôt dans le système nerveux. Mais là, ça apparaît sous une représentation relativement claire. Donc, voilà, quoi. Donc, compliqué, mais bon, c'était simple, ce ne serait pas drôle. C'est ce que je me dis des fois pour me consoler, mais il y a des jours, j'aimerais que ce soit plus simple. Vous aussi, je suppose. Donc, moi, je pensais honnêtement la semaine dernière que j'en avais fini avec ces histoires d'ARN régulateurs et autres, que j'en ai un petit peu assez, vous aussi, j'imagine, mais j'ai essayé de vous faire souffrir encore quelques minutes. Et je voulais passer tout de suite au black métabolisme, mais il se trouve que cette semaine, la semaine dernière, sont sortis un certain nombre de papiers, c'est un hasard, qui sont en plein dans le sujet. Et je pense que c'est intéressant aussi pour vous d'avoir ce qui sort le plus récemment, après tout. Donc il y a une revue en particulier qui est intéressante, qui est une revue de Esteller et collègues dans Nature Reviews Genetics, qui vient de sortir la semaine dernière, dans lequel cet auteur, bon, il nous rappelle évidemment qu'il y a 1,5% du génome qui est codant, 2% si on inclut les régions 5' et 3' mutaires, bien entendu. Et il nous fait tout un listing qui, je crois, peut vous intéresser de ces ARN. On connaît bien les micro-ARN. Maintenant, tout le monde connaît les micro-ARN qui, essentiellement, régulent la traduction. Mais vous voyez que c'est une population extraordinairement variée, cette population d'ARN court, en l'occurrence, ici, sur les petits. Hein. Vous voyez que vous en avez d'autres. Vous avez ici ce qu'on appelle les tRNAs, qui, eux, sont en aval des sites d'initiation de la transcription et qui régulent de ce fait la transcription. C'est-à-dire qu'ils viennent aller se coller à l'ADN pour réguler la transcription. Vous avez ici une autre classe, donc on va parler énormément l'année prochaine, qui sont les piRNAs, qui sont les ARN qui régulent, qui régulent l'expression des transposons, en l'occurrence. Et ce sont des gènes trucs qui nous amusent beaucoup, parce que, un, ça régule la méthylation du génome, donc l'expression génétique, et surtout, ça permet de faire des trous dans l'ADN, donc ça le casse, et donc c'est intéressant, parce que c'est une des sources de vieillissement, de casser l'ADN, et en même temps, dans les cellules qui prolifèrent, c'est une façon de rétrotransposer dans ce cas-là et de faire la diversité dans vos cellules. Hein, vous savez qu'il n'y a pas une cellule chez vous qui ressemble à la cellule d'à côté. Et au fur et à mesure que nos cellules souches prolifèrent, eh bien, il est très probable qu'elles se modifient. Et une des sources de ces modifications, c'est justement ces ADN sauteurs qui viennent se mettre, qui viennent, hop, et hop, je fais un trou, enfin, et je le bouche. Mais je le bouche avec quelque chose, donc je modifie ce qui est autour. Et ça, c'est régulé par par les ARN, qui sont des ARN qui sont fixés à une protéine, plusieurs protéines qu'on appelle PIWI, en fait. Et ça, ça se passe évidemment dans toutes les cellules souches, et ça se passe aussi, ça peut se passer si ça va vraiment très mal, ça peut se passer dans la lignée germinale. Et ça, c'est un truc qui est intéressant, sur lequel je discuterai pas mal l'année prochaine, c'est que on peut imaginer que des stress extrêmement violents, je l'avais dit, peuvent aller introduire des modifications dans la lignée germinale, et donc se traduire par des modifications de comportement dans la génération suivante. C'est ça qui est amusant, c'est-à-dire que ce n'est pas celui qui a souffert qui va continuer à souffrir, mais c'est les petits. Donc, il y a une justice. Donc, bah oui, pas tout pour les mêmes. Il ne faut pas exagérer, quand même. Donc, vous avez des ARN de taille moyenne, hein, ça, c'est tout petit, hein, c'est entre 19 et 31 paires de base. Et puis vous avez des ARN de taille moyenne, sur lesquels je vous montrais juste un exemple avec les snow RNAs qui sont là, qui sont assez intéressants. Et puis vous avez, évidemment, on en a parlé souvent, vous avez les longues non-coding RNA, ça c'est les longues intergéniques non-coding RNAs, et qui sont des gènes qui sont très importants dans la régulation de la transcription. Donc c'est un auteur qui... Les ARN antisens aussi qui sont importants. Là vous voyez, ils viennent réguler à la baisse ou à la hausse, on en a parlé aussi l'année dernière, la transcription de votre génome. Hein. Et ça, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le... Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est pas grave. Il doit y avoir une raison, mais j'ai dû oublier. Voilà. Donc, l'auteur nous propose donc cette revue sur les événements génétiques et épigénétiques qui sont mis à mal, hein, par ces ARN régulateurs, avec des conséquences, évidemment, dans le domaine des pathologies. Puisque, bon, on s'intéresse aux pathologies. Donc, je l'ai dit, les micro-ARN sont des ARN qui régulent la traduction d'au moins 60% des protéines. Et une chose qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'un micro-ARN peut réguler la traduction de 100 messagers. Donc, ce sont aussi des éléments hub, c'est-à-dire qu'un seul micro-ARN peut aller vous modifier l'expression d'une centaine de messagers dans votre cellule. Donc, des fois, c'est un micro-ARN, un messager, mais ça peut être évidemment beaucoup plus. Donc là, on retombe sur le problème de type hub. Et une mutation, évidemment, qui va affecter un micro-ARN de ce type va avoir des conséquences énormes comparées à l'événement mutationnel. Alors, je reviens à cette idée, 1,23% de différence entre l'homme et le singe, ça n'a pas de sens. Comme je vous disais au début, ce qui est important, c'est l'endroit où elle tombe, la bombe de Boris Vian, de son oncle plutôt. Donc, bon, les pi-RNA sont un petit peu plus gros, hein, et je vous ai dit ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que les complexes PIWI, PI répriment l'expression des éléments transposables et leur mobilisation, hein, au sens littéral du terme. Hein. Et puis, les SNO, donc, c'est un peu plus gros. Ah oui, et eux, ils régulent la pseudorégulation et la méthylation de l'ARN ribosomal. C'est ce que je vous ai mis ici, c'est pour ça que j'ai mis cela. Et donc, ils sont très importants au niveau du nucléole pour faciliter le repliement de l'ARN ribosomal et la stabilité de ces ARN. Et puis ça, c'est un groupe évidemment plus hétérogène, dont on a souvent parlé, qui régule les modifications épigénétiques, hein, et en recrutant les complexes trithorax ou polycombe, trithorax qui permet l'expression, polycombe qui réprime l'expression, en catalysant des méthylations au niveau des îlots CPG, dont on a aussi parlé. Vous êtes des biologistes maintenant patentés. Hein, il n'y a pas de diplôme ici, mais je suis sûr que si je faisais l'interrogation écrite, il n'y aurait pas de problème. Pour les ARN intergéniques, ce sont des régulateurs transcriptionnels. Alors, on ne sait pas très bien comment ça marche, mais par exemple, vous en avez... il y en a un, par exemple, quand P53 est activé. P53, c'est pas sympa quand c'est activé, mais il faut l'activer de temps en temps pour réparer l'ADN. Mais ça peut avoir des conséquences autres, c'est-à-dire provoquer des tumeurs. Donc, quand P53 est activé, eh bien, il y a un intérêt intergénique comme ça qui vient réprimer la transcription d'autres cibles de P53. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une action spécifique d'un facteur de transcription. Donc, ils sont très, très conservés entre l'homme et la souris. Et ils sont aussi très présents chez le poulet, chez le chien. Et en fait, on pense que il n'y en a pas chez les invertébrés. Donc, on pense que ça joue un rôle assez important dans l'évolution des vertébrés. Donc, on en connaît 480 aujourd'hui, 81 exactement, qui peuvent chevaucher les exons codants, parce que c'est aussi un problème de la complexité du génome, c'est qu'il n'y a pas le codant, le non-codant. Des fois, ça se chevauche. Et leur taille est d'environ 2 kilobases. Donc, il y a tout un pot pourri encore d'ARN non codant dont je vous fais grâce. Mais ce dont je ne vous fais pas grâce, c'est que 70% des micro-ARN, par exemple, parce que c'est, l'intérêt, c'est pour, là, pour l'instant, c'est le cerveau, hein, en ce qui nous concerne. Donc, tous ces ARN, et les micro-ARN en particulier, jouent un rôle extrêmement important dans le développement du système nerveux et dans leur physiologie. Donc, la formation des épines dendritiques et la traduction locale. Donc, la traduction locale, c'est quelque chose qui est fondamental pour la physiologie nerveuse dans la synapse, mais aussi pour la croissance axonale. Alors, je vous renvoie à des travaux qui ont été faits dans mon laboratoire en particulier sur le rôle de la traduction dans les axones et dans les terminaisons. Ça a été longtemps quelque chose de tabou de penser qu'il peut y avoir de la traduction dans les dendrites, c'était quand même accepté. Dans les axones, c'est plus compliqué. Dans les cônes de croissance, c'est plus compliqué. Mais en fait, c'est vrai, quoi. On n'y peut rien. Hein. Ça ne facilite pas la compréhension de toutes ces petites affaires, c'est vrai. Donc, si chez un mammifère, vous faites une ablation des éléments qui sont nécessaires à la maturation de ces micro-ARN, eh bien, vous avez, c'est une catastrophe, quoi. Vous faites des animaux tout à fait mal terminés. Vous avez des ataxies cérébelleuses, vous avez des formes de sclérose en plaques, vous avez des formes de maladie de Parkinson ou de maladie d'Alzheimer qui sont liées à des dérégulations ces micro-ARN. Donc, on a pu en identifier quelques-uns. Hein. Par exemple, miR-126 est impliqué dans la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, miR9 dans une maladie particulière des motoneurones spinaux, miR19, miR101, miR130 dans l'ataxie cérébelleuse de type 1. Donc, ce sont évidemment des cibles pharmacologiques extrêmement intéressantes. Vous voyez ici, par exemple, là, c'est la maturation d'un micro-ARN. Si vous avez fait une mutation dans Dicer, qui est important pour la maturation de micro-ARN, alors vous avez ces problèmes. Là, c'est la formation des piRNA accrochés à piWi. Et là, je n'insiste pas. Je vous raconterai ça l'année prochaine. Là, ce qui est assez amusant quand même dans ces SNO ARN, c'est que vous voyez qu'en fait, ce sont des choses qui sont dérivées des régions introniques. Vous voyez, vous avez ici les exons, les introns. Vous allez donc recombiner vos exons pour faire votre messager. Et puis, vous avez l'intron qui, lui, va avoir une fonction régulatrice par ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne perd rien. Tout est bon dans le gène. Voilà, donc, ouais, quoi. Donc, ça, c'est assez amusant. Et donc, évidemment, toutes ces nouvelles compréhensions de comment fonctionne un génome dans le système nerveux, alors, vous avez ici, je donne ici un exemple, par exemple, vous avez ici un ARN codant long, hein. Ici, vous avez un antisens qui correspond à l'exon 6, et cet antisens, quand il est transcrit, il stabilise une protéase qui s'appelle BAS, hein, parce qu'elle coupe dans des régions acides du précurseur de la protéine amyloïde. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que quand vous faites ça, vous faites énormément de ce qu'on appelle le peptide amyloïde, c'est-à-dire que ça vous fait des plaques, hein, dans l'hippocampe. Donc, passer un certain âge, il ne faut pas faire de manip PET scan. Hein. Ce n'est pas bon pour le moral. Hein. Donc, je conseille de rester... Voilà, n'allez pas chez Stan, de Han, vous mettez dans la machine et vous aurez des mauvaises nouvelles en sortant. Donc, moi, j'ai refusé. Hein. Donc, mais là, vous voyez, avec un ARN, vous pouvez... et c'est un ARN du même gène, hein, mais en antisens, c'est-à-dire qu'il est transcrit dans le sens inverse. Et là, vous avez aussi un truc qui est assez amusant, c'est vous allez faire un ARN qui va aller vous réguler le splicing. Et donc, vous allez perdre toute la partie postérieure de votre récepteur. Ici, c'est un récepteur sérotoninergique. Vous allez faire une maladie qui s'appelle le Prader-Willi syndrome. Ce n'est pas un truc très, très répandu, mais si vous montrez que toutes ces petites régulations par des éléments qui ne sont pas des protéines, par les ARN qu'on voit partout, en fait, c'est l'essentiel de notre génome, si ça marche mal, ça peut avoir des conséquences évidemment très dramatiques pour tout ce qui est de notre physiologie cérébrale et puis notre vieillissement qui est de toute façon inéluctable. Donc, bon, il faut mieux prendre ça avec plaisir. D'accord. Donc, vous voyez ici toute la liste des maladies. Je n'ai pas tout mis pour ne pas désespérer Billancourt. Mais vous voyez qu'il y a du monde. Et ça, j'ai retiré le cancer, là, parce que bon, c'est quand même la cause principale de mortalité. Donc là, on est resté. Là, c'est les survivors. Hein, mais bon, il y a quand même du monde. Et de toute façon, ceux qui voudront les diapos pourront les avoir. Et il faudra garder les références si ça vous amuse. Ce n'est pas forcément amusant, mais enfin bon. Donc, ces différentes avancées dans la compréhension des étiologies de certaines maladies, bon, évidemment, peuvent ouvrir aussi des voies, ça c'est la bonne nouvelle, sur des approches thérapeutiques, bien entendu. Hein, vous voyez par exemple que si vous avez un déséquilibre dans les micro-ARN, que vous voyez ici, ben, vous pouvez s'y s'impliquer dans la méthylation des histones ou dans l'acétylation des histones. Ben vous pouvez corriger de façon génétique, apporter ce qu'il faut. Vous pouvez aussi délivrer des micro-ARN hein, s'il en manque. Vous pouvez aussi mettre des choses qui augmentent la fabrication du micro-ARN à partir de son précurseur, par exemple un truc qui activerait Dicer, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis, si vous en avez trop, vous pouvez s'en retirer, vous mettez des antisens, vous pouvez faire des éponges à micro-ARN pour aller saturer un peu le truc. Donc, évidemment, à chaque fois qu'on trouve une nouvelle voie physiologique, on comprend mieux une pathologie et du coup, on a accès. C'est moins rapide, bien entendu, mais on peut avoir accès à des solutions. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, même d'un point de vue de la recherche que nous faisons tous. C'est que, si vous voulez, je vous rappelle que l'interférence ARN s'était découverte chez le pétunia. Hein, et la transposition, ça a été découvert chez le maïs, hein, c'est la variation de la couleur des grains de maïs qui a été fait par McClintock. Et je pense que ce sont aujourd'hui des voies d'accès extraordinairement fructueuses pour la compréhension des maladies, de toutes les maladies. Et je vous assure que, aussi ouvert d'esprit que soient nos bailleurs de fonds, je ne pense pas que dans un programme cancer, quelqu'un qui sera arrivé en disant « j'ai regardé la couleur des pétales du pétunia », aurait eu beaucoup de succès ou la couleur des grains de maïs, on lui aurait peut-être dit écoutez, repassez, on va faire des choses sérieuses écoutez c'est absolument extraordinairement fondamental hein. Donc je crois qu'il faut toujours réfléchir que ça ne vient jamais de l'endroit où on croit que ça va venir. Donc avant d'entrer dans c'est l'arlésienne donc avant d'entrer dans la question du métabolisme et de son évolution, je voudrais aussi, toujours du fait des moissons de la semaine dernière, revenir rapidement sur un truc qui m'avait beaucoup amusé, moi qui, enfin vous, ça a peut-être moins fait rire, mais c'est intéressant, une sorte d'édition d'ARN. Hein, c'est-à-dire que vous avez fait un ARN, et ben, il ne va pas rester comme il est, il va s'éditer en plus, on va le modifier après. Et donc... et puis après, très brièvement, peut-être, j'avais d'autres choses, je n'ai pas terminé encore, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Mais bon. Si je reviens à l'édition, c'est parce que cette semaine, sorti un article qui illustre son intérêt dans la question des maladies de l'esprit, puisque c'est ça qui nous intéresse. Je vous rappelle que les protéines qui lient l'ARN, les ARN sont transportés, ils sont stabilisés, ils sont mis au bon endroit parce qu'ils se lient à des protéines qui se charge de faire ce trafic. Hein. C'est-à-dire que si je veux amener un ARN au bon endroit, il faut qu'il y ait une protéine qui l'amène, l'ARN, au bon endroit. Et donc, il y a des protéines dont c'est le boulot hein, de transporter des ARN. Et donc, ils ont une fonction essentielle à la fois dans la stabilité des messagers, mais aussi dans le contrôle de leur traduction, donc dans le contrôle de l'expression génétique. Et ces protéines agissent dans le noyau comme elles agissent dans le cytoplasme. C'est-à-dire qu'il y en a partout. Donc, il y a beaucoup de pathologies héréditaires dont l'origine peut être recherchée dans des mutations de ces protéines qui transportent les ARN. Alors vous avez vu, ils transportent le piRNA, ils transportent le microRNA. Mais là, je parle des protéines qui transportent des ARN messagers, hein, les ARN dont nous avons l'habitude, vous comme moi. Et dans le cas d'un syndrome, vous avez le syndrome du X fragile, sur lequel a beaucoup travaillé mon collègue Jean-Louis Mandel, qui est d'une secours ici, eh bien, c'est la forme la plus répandue, comme vous le savez, de retard mental, le X fragile. Donc, c'est aussi une cause d'autisme, dans certains autismes, et c'est lié à une répétition d'un triplet CGG dans le domaine 5' non codant du gène FRM1 qui est. Et ça fait que la protéine FRMP n'est pas traduite. Donc on manque de cette protéine qui transporte les messagers où il faut, en particulier dans la synapse. Et ça amène évidemment des dérégulations de la fonction synaptique. Et ça interagit avec les systèmes d'interférence ARN. Et ça entraîne évidemment des retards mentaux qui sont, c'est la plus grande forme, je vous l'ai dit, de retards mentaux. Donc l'absence de FMRP chez la mouche et les modèles de maladie de l'X fragile chez la souris montrent que c'est la formation des circuits neuronaux et c'est aussi ce qu'on appelle les long-term potentiation, long-term depression, c'est-à-dire la plasticité synaptique. C'est-à-dire comment une synapse se souvient de ce qu'elle a eu. C'est-à-dire que je tape un coup, et le coup suivant, ça tape plus fort ou moins fort. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mémoire de la première truc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Je simplifie un petit peu, mais ce n'est pas grave. Et les travaux de Bogal montrent que, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est toujours plus compliqué que ça. C'est ça qui est sympa. Donc, parce que FMRP module aussi l'activité d'une adénosine déaminase qui transforme les adénosines en inosine, hein, AI, et l'inosine est lue comme une guanine, c'est-à-dire que ça fait une mutation dans votre ARN. Donc, FMRP est important pour l'activité de l'enzyme qui édite les ARN. D'accord ? Et en fait, vous pouvez co-immunoprécipiter FMRP et ADAR, hein, et quand qui forment un complexe, et vous voyez ici, par exemple, si vous faites une forme mutée de ADAR, hein, eh bien, vous allez modifier le nombre de synapses dans ce muscle ici, aussi dans ce muscle-là, on est dans la drosophile, hein, c'est sympa la drosophile, parce qu'on peut faire plein de manips assez rapidement, mais vous voyez que vous avez des modifications dans certains muscles. Dans certaines jonctions neuromusculaires, vous avez une modification importante du nombre des synapses par la mutation ADAR. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'au niveau nucléaire, ici, vous avez un exon, ici, vous avez l'intron qui va être épicé, vous avez le deuxième exon, et en fait, vous avez une interaction entre FMRP et ADAR, et FMRP aide ADAR, en l'amenant au bon endroit, à éditer l'exon, c'est-à-dire à faire une mutation de type AI. Et donc après, vous avez le splicing et vous avez votre mutation. Là, l'édition se fait dans le noyau. On peut imaginer que ça se fait ailleurs que dans le noyau. Là, ça se fait dans le noyau, dans cet exemple. Et donc, vous avez quelque chose de... Normalement, vous avez ce genre d'équilibre AI, mais si, dans le cas du fragile X, vous avez moins de FMRP, alors votre édition est beaucoup plus dérégulée, c'est-à-dire que vous avez une dérégulation, le pivot est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Donc vous n'apportez pas, vous n'amenez pas ADAR là où il devrait être. Donc ça, c'est amusant parce que ça montre que FMRP, ce n'est pas uniquement ça. Et évidemment, on peut aller chercher les gènes qui sont édités derrière. Hein. On peut même les co-immunoprécipiter, soit avec ADAR, soit avec FMRP. Et on récupère les mêmes gènes, c'est-à-dire qu'il y a des gènes qui sont accrochés, des messagers, qui sont accrochés aux deux protéines. C'était édité par ces ADAR, mais sous le contrôle de FMRP. Et ce sont des gènes qui sont intéressants, Par exemple, ici, vous avez UNC13, qui est impliqué dans la libération des neuromédiateurs. Ça, c'est dans la transmission synaptique et l'endocytose des vésicules synaptiques. Ici, c'est des fonctions inconnues. Là, c'est un canal calcique. Là, c'est un canal potassique. Là, c'est une régulation de la transcription. Donc, de nouveau, vous pouvez comprendre comment FMRP n'agit pas uniquement comme régulateur de la stabilité du messager ou de la traduction, mais aussi comme régulateur de l'édition. Donc, Comme ce papier est sorti la semaine dernière, je me suis dit que bon, ça serait quand même une assez jolie illustration de ce que vous avez raconté, même si évidemment, ça nous a fait perdre encore un tout petit peu de temps. Donc je termine assez rapidement. Je ne vais pas rester très longtemps parce que j'ai un train. Mais si vous avez est-ce que vous avez de la patience pour 5 minutes encore ou est-ce que vous êtes totalement épuisé ? D'accord. Parce que sinon, on ne fera jamais le métabolisme. Quand même, c'est le truc le plus important, donc ce serait dommage. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des choses qui sont intéressantes, c'est la création de nouveaux gènes ou de nouvelles cellules complètement de novo. Donc ça, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément. Et là, il y a un article qui est sorti en 2011 aussi par vous et ses collègues. Dans la plupart des cas, vous savez, les nouveaux gènes qui apparaissent ne sont pas véritablement des nouveaux gènes. Ce sont des gènes qui ont évolué à partir de duplication ou des gènes qui ont évolué à partir de mélange d'exons. Vous voyez que tout ce génome est tellement flexible. Maintenant que vous aviez cette idée absolument, hein, le génome sacré, non, c'est... Quand je pense qu'il y en a qui ont peur des OGM, ça me fait rigoler, quoi. Hein, ça, le génome, il se tripote tout seul, il n'a pas besoin de nous. Hein. Donc, dans la plupart des cas, les nouveaux gènes sont toujours... mais il y a toujours eu cette hypothèse de l'apparition de nouveaux gènes, des nouveaux. Hein. Et l'hypothèse est osée. D'ailleurs, la probabilité pour certains était quasiment nulle. Hein. C'est ce que François Jacob dans Évolution et bricolage, qui est un papier qu'il a écrit dans Science en 1976, dit que c'est un événement de probabilité quasiment nulle. Mais enfin, qu'on soit là aussi, la probabilité est quasiment nulle, on est là quand même. Donc, voilà, quoi. Même ce qui est quasiment nul peut arriver. Donc, c'est ce qui est arrivé avec la création de nouveaux gènes. Et justement, de nouveau, c'est à cause de ces ARN non codants. Parce que pour qu'un nouveau gène arrive, il faut qu'il y ait un ARN qui soit transcrit, d'accord ? Donc, vous avez toutes ces régions intergéniques qui peuvent être transcrites. S'il y a des mutations qui font que tout d'un coup, ça engage l'expression d'un open reading frame, c'est-à-dire que ça peut être traduit, alors à partir de là, vous pouvez créer une nouvelle protéine. Et donc, surtout si ces séquences sont divisées en exons introns, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est une chose assez, assez drôle. Et effectivement, on a trouvé pas mal de nouveaux gènes. J'abrège, hein, si ça vous intéresse. De toute façon, je verrai si on peut mettre le cours directement sur le site. Sinon, ceux d'entre vous qui le veulent, je leur donnerai, hein, je leur envoie. Je l'ai toujours fait ça tous les ans, donc ce n'est pas un problème pour moi. Donc, en comparant plusieurs espèces de primates, on a trouvé chez les mouches, bien entendu, mais je passe aux primates pour aller vite. En comparant plusieurs espèces de primates, les auteurs ont identifié 60 nouveaux gènes. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire 10 nouveaux gènes par million d'années. C'est pas mal quand même. Il faut être patient, mais... et donc, si on fait la séquence de ces nouveaux gènes, par toujours les techniques, on voit que la proportion de gènes qui ont 70% des nouveaux gènes sont exprimés dans le cortex cérébral, d'accord, et dans les testicules. Ça, c'est assez courant. Ce qui est exprimé dans le cerveau est exprimé dans les testicules. Donc, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et donc, aussi la proportion des nouveaux gènes qui ont le plus haut niveau d'expression. Hein, de nouveau, on est dans le cortex cérébral et dans les testicules. Donc, c'est comme ça. Mais il y a une grande invention, apparemment, de nouveaux éléments génétiques dans ces deux organes. Voilà, donc ça, c'est, je trouve ça bien. Les fonctions de ces gènes qui ont été identifiés sont encore évasives, mais c'est probable qu'on aura bientôt des knock-outs, des machins, donc on verra bien où on est. Il y a une autre chose aussi qui est apparue, une nouvelle chose, c'est les nouvelles cellules. Hein. Vous vous rappelez, je vous avais dit que dans le cortex, vous aviez des nouvelles cellules. Par exemple, les neurones GABAergiques chez les souris viennent tous, ce qu'on appelle du subpallium. Rappelez-vous les premiers cours, pour ceux d'entre vous qui étaient là. Et puis, chez nous, bien sûr, ça vient aussi du subpallium, mais il y a aussi des nouveaux neurones GABAergiques qui viennent du pallium, du télencéphale dorsal. Donc, il n'y a pas que ça comme nouvelles cellules. Il y a aussi... des cellules qui sont à la maison, c'est celles qui ont été identifiées par Von Economo. Von Economo et Koskinas en 1925, qui ont découvert dans des régions qui sont des régions relativement intéressantes parce que c'est le cortex limbique antérieur et le cortex fronto-insulaire qui sont des régions intéressantes qui sont impliquées à la fois dans les comportements sociaux, hein. Et ces cellules sont en plus grand nombre, plus que chez d'autres espèces, dans le cerveau humain. Il y en a dans le grand singe, mais il y en a moins. Il y en a dans les cétacés et dans les éléphants aussi. Ce sont des animaux qui ont passé un test, disons, de conscience de soi, mais surtout qui ont des gros cerveaux. Hein, mais pas en valeur relative, parce que la baleine a un petit cerveau par rapport au reste. Mais quand on a un gros cerveau, il faut faire de la communication rapide. Donc on pense que ce sont des neurones qui permettent une communication extrêmement rapide entre ces régions du cortex limbique, essentiellement, et d'autres régions du cortex. Donc ce sont c'est plus grand que les cellules pyramidales. Elles reçoivent des informations touchant à la douleur, à la démangeaison, à la chaleur, au refroidissement et au toucher sensuel. Donc le massage, probablement, j'imagine, un truc dans ce genre-là. Donc ce sont des régions qui sont associées à la prise de décision rapide, qui échappent à la possibilité d'une analyse rationnelle. Donc on les a appelés aussi les neurones de l'intuition, c'est-à-dire que dans une situation complexe, d'un coup, vous prenez une décision. En fait, vous faites probablement du calcul, mais c'est inconscient. Et ce sont des neurones qui ont l'air d'être touchés dans pas mal de maladies psychiatriques, hein, en particulier dans les démences frontotemporales. Vous avez une baisse d'empathie, vous avez une baisse d'attention sociale, d'autocontrôle aussi. Et le nombre de ces neurones baisse de 75% dans le cortex. Donc il y a une grande chute du nombre de ces neurones. Les autres, d'ailleurs, qui survivent sont un peu dysmorphiques, ils ont une sale tête, ils sont tordus. Il y a beaucoup de traits associés à l'autisme qui suggèrent une implication des neurones de von Economo, mais les résultats sont très contradictoires. Des fois, on ne voit rien, des fois, il y en a trop, des fois, il n'y en a pas assez. Et là, ça nous ramène à cette question vraiment de l'hétérogénéité de ces maladies et de la difficulté énorme, évidemment, à faire un lien entre les événements cellulaires et des pathologies, même génétiques, hein, et des pathologies aussi complexes, et probablement d'étiologies aussi diverses que les maladies de l'esprit. Voilà. D'autant plus que les veines sont aussi impliquées dans certaines formes de schizophrénie. Une chose qui est intéressante, c'est que vous voyez, ce sont quand même des neurones qui apparaissent de façon post-natale. Hein. Celui-là, c'est probablement un sapiens qui a un petit peu... c'est un point aberrant dans la courbe des sapiens. On ne peut pas regarder le nombre de neurones à différents âges pour la même personne. Donc, il faut qu'on prenne des personnes qui sont mortes à différents âges, bien entendu. Lui, ça devait être un type assez bizarre. Hein, mais, donc toujours est-il que vous voyez que ça augmente quand même après la naissance. Hein. Il y a une chose aussi intéressante, c'est qu'il y a une latéralisation, c'est-à-dire que ce sont des neurones qui sont plus nombreux du côté droit que du côté gauche. Hein. Quoi que cela veuille dire, j'en sais rien. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'espère que ce n'était pas trop ennuyeux, mais je vous promets que la semaine prochaine, on va parler des mitochondries.